Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polothèque.
Et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Guillaume Ribaud pour le film, son film qui a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Treblinka, je suis le dernier juif, adapté du témoignage de Shiel Reichman. Ce film sera projeté en avant-première au Mémorial de la Shoah à Paris, dimanche 13 novembre à 14h30. Alors il s'agit d'un document extrêmement fort, extrêmement violent aussi, puisqu'il est entièrement basé sur les témoignages de Shiel Reichman, qui est mort en 2004 à Montevideo et qui était l'un des 57 survivants de la révolte de Treblinka. Après s'être enfui du camp, en novembre 1943, il a réussi à rejoindre Varsovie, où il a été caché par un ami jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est à ce moment qu'il a rédigé ce témoignage édifiant sur l'enfer de Treblinka. Guillaume Ribaud, vous êtes photographe, vous avez travaillé à plusieurs reprises sur les camps en France et en Pologne. Vous vous êtes aussi rendu en Ukraine sur les traces des massacres des Einsatzgruppen. Vous aviez aussi réalisé un très beau film sur un cahier d'écolière d'une petite fille déportée, le cahier de Suzy. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser cette fois ce film sur le témoignage de Shiel Reichman ?
Tout simplement le texte. Ce texte quasiment unique, parce que écrit sans aucun recul mémoriel, sans aucun recul historique. Shiel Reichman, qui n'est pas un littérateur, écrit ce texte lorsqu'il est caché à Varsovie. Et dans la préface du livre, on dit qu'il l'écrit dans l'ombre portée de la mort. Et il décrit tout ce qu'il décrit, c'est un texte brut, sans effet de littérature, sans effet de style particulier, c'est ce qui en fait la force, parce qu'il décrit réellement les choses comme il les a vécues, sans s'être nourri des mémoires des autres.
Oui, puis c'est ça, c'est surtout dans l'immédiat, même pas dans l'immédiat après-guerre, c'est encore la guerre. Est-ce que vous pouvez nous le présenter finalement ? Ce n'est pas si important, on n'a pas forcément besoin, parce que le texte est tellement fort qu'on rentre directement dans son expérience, mais est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ?
Le texte,
cet homme.
Cet homme. Shiel Reichman. Shiel Reichman est né dans une famille pauvre à Lodz, en Pologne. Lorsque la Pologne est, évidemment sans faire trop d'histoire, mais le cadre c'est ça, c'est un homme, un juif polonais. À partir de 1939, sa famille, etc. sont enfermés dans les ghettos. Lui, il arrive à s'échapper avec sa jeune sœur, se cacher avec des papiers, des faux papiers. Et puis, en 1942, on veut rendre cette région de Pologne, Judenfrei, libre de juifs. Et les déportations vers Treblinka commencent. Et c'est là où commence mon film, en fait, lorsque le train s'arrête. Ce sont les premiers mots du film. Le train s'arrête, les wagons restent fermés et nous ignorons ce qui se passe. Le texte commence comme ça. Le travail que j'ai fait sur le texte, en fait, c'est une adaptation de son texte. Je n'ai absolument réécrit aucun mot. Donc tous les mots sont de Shiel Reichman. Je n'ai fait que le choix de passer ce texte au présent pour accompagner le spectateur en direct dans la découverte de ce qui fera de Shiel Reichman un survivant. Ils sont 57 sur 850 000 victimes. Ça laisse 850 000 victimes en à peine plus d'un an. Ça vous laisse, c'est un des trois camps de l'opération Reinhardt, avec Belzec, Sobibor et Treblinka. C'est un centre de mise à mort d'une efficacité redoutable, absolument redoutable, et qui a été rasé dès 1943. Donc les traces elles-mêmes ont été effacées. Et on arrive donc avec Shiel Reichman et son texte, à partir du moment où les portes s'ouvrent avec lui et sa petite sœur.
Alors, ce film est très fort, hein, donc je l'ai déjà dit. Vous avez choisi de laisser toute la place au texte, avec des images des lieux vides, principalement, hein, des camps d'aujourd'hui. Vous avez notamment tourné à Birkenau, à Sobibor, parce qu'on ne pouvait pas monter Treblinka.
Si, on peut montrer Treblinka, mais Treblinka est aujourd'hui au milieu d'une forêt, un simple mémorial, très beau mémorial d'ailleurs, très, très ancien, des années 60, mais très beau. C'est un parterre à l'endroit où se situaient les fosses d'incinération et les fosses communes, des stèles de pierres triangulaires qui représentent chaque shtetl d'où les gens venaient. On le voit très bien dans le formidable film de Claude Lanzmann, Shoah. Il filme beaucoup là-bas. Mais je ne pensais pas que ça allait servir le film de filmer pendant 52 minutes, puisque c'est son format, cet endroit exclusivement. Il me semblait qu'il fallait apporter au texte des points de repère, même si effectivement les endroits où j'ai filmé ne sont pas que Treblinka. J'ai filmé à Treblinka. Mais j'ai privilégié aussi une réflexion en creux sur les lieux de mémoire, comme Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Ponari, je suis également allé à Ponari. Et j'ai fait en sorte à chaque fois qu'on ne reconnaisse pas ces lieux. Parce que l'idée, c'était pas de dire, ah tiens, il est à Auschwitz. Mais c'est souvent par le cadrage, par des flous, d'arriver à accompagner le texte. Et parce que ces images sont vides. Il n'y a que le texte, la voix de l'acteur qui s'appelle Stéphanie Olivier Bisson, qui a magnifiquement interprété le texte de Reichmann. On a besoin d'un support, on ne peut pas se contenter simplement de ne voir que du vide, on a besoin de savoir, quand il dit je me couche par terre le soir, on a besoin de voir le sol en terre battue d'une baraque du camp des femmes de Birkenau par exemple. Donc voilà, c'est ce procédé que j'ai trouvé, on n'est pas dans un film documentaire stricto sensu où je vous montre Treblinka comme on sait aujourd'hui, vous le voyez d'ailleurs parce qu'à un moment il y a un très long panoramique sur le mémorial dont je vous parlais qui dure 40 secondes. Mais après, il me semble que ça aurait été un peu redondant et ça aurait desservi le texte. Donc c'est le procédé que j'ai trouvé, c'est ça. Ça peut être discuté, mais en tout cas, je pense que ça, j'ai réussi, à mon sens, de servir le texte en faisant ce choix, qui a été très difficile, hein, parce que ce n'est pas arrivé comme ça en me disant « Ok, je vais là-bas, je fais ci, je fais ça ». Non, non, non. Je suis allé aussi à Lublin, Majdanek, je suis allé dans tous les centres de mise à mort de Pologne, plus celui de Vilnius. Ponari, pour essayer aussi de garder cette force des lieux, même s'ils ne sont pas, ce ne sont pas exclusivement Treblinka, mais chaque lieu dégage quelque chose. La voie ferrée qu'on voit au départ, c'est celle de Sobibor. C'est une voie ferrée sous l'herbe de Sobibor, au milieu des arbres. Il me semble que se dégage quelque chose de cette image.
Vous avez choisi également de montrer des portraits, des photos des disparus dans leur vie d'avant.
Oui, parce que la Shoah, ce ne sont pas que des morts, ce sont des vivants qu'on a assassinés. Pour moi, c'est ça. Et de ne faire que 52 minutes sur un assassinat de masse comme celui-ci, où, je le répète, 850 000 victimes de la région de Varsovie ont été englouties, il me semblait qu'il manquait quelque chose. Et j'avais cette phrase qui est dans le texte de Reichmann, où il dit le premier soir, lorsqu'il arrive et qu'il apprend ce qui lui arrive, parce qu'au début il ne sait pas. Quand il dit le train s'arrête, les portes s'ouvrent, nous ne savons rien, ils ne savent rien. Certains pensent qu'ils vont en Russie, d'autres pensent qu'ils vont travailler à l'Est, ils ne savent vraiment pas. J'avais cette phrase qui me revenait tout le temps, où il dit le premier soir, il comprend qu'on est dans un centre de mise à mort, il dit « Hier, les nôtres vivaient ». Et ceux qu'on assassine, c'est ceux qui vivaient. Ce ne sont pas des morts, ce sont des vivants. Et ces vivants avaient une histoire. C'est pour ça que toutes ces images que j'ai trouvées de mariage, des images de gens qui font du vélo, des gens qui se lancent des boules de neige, c'est aussi pour casser cette image « Le juif polonais n'est qu'un religieux ». On pense, ce n'est pas ça, c'est une vie entière, c'est une communauté, c'est une langue qu'on a assassinée. Le texte original est en yiddish, une langue, dans la langue de personne, dira Rachel Hertel, c'est ça. On a tout détruit, absolument tout. Donc on a détruit la culture, on a détruit la langue, on a détruit l'histoire, on a détruit les corps évidemment, et le futur. Mais j'avais besoin de réincarner absolument, et c'est aussi ces images arrivent après chaque journée ou après un cycle d'un mois ou deux, et elles sont comme une respiration, et en même temps elles sont comme on se fait aspirer à la fin de ces images, parce qu'on sait qu'on retourne vers la description de Till Reichmann. C'est le procédé que j'ai trouvé pour essayer d'équilibrer, de faire respirer le film en fait.
Justement, comment vous avez procédé au découpage du texte? Au départ, donc vous l'avez dit, il arrive à Treblinka et chaque jour est détaillé, et puis évidemment la temporalité évolue au fur et à mesure, c'est mois par mois, puis ensuite plusieurs mois.
Alors, le texte original, la moitié du texte original, c'est sur les trois premiers jours en fait, où tout se joue. Tout se joue là, parce que c'est soit vous mourrez, soit vous êtes sélectionné pour le travail. On ne survit dans les centres de mise à mort que lorsqu'on a une utilité. C'est-à-dire on est un homme dans la force de l'âge, on n'est pas un enfant, on n'est pas âgé, et il faut une dose de chance, d'adaptation extrêmement forte, il faut beaucoup de choses, faire des choix à des moments précis. Et lorsque Till Reichmann arrive, dès le début, un SS lui dit « Qui est coiffeur ?» Lui, il lève la main en disant « Je ne sais pas ce qui va se passer quand ils vont se rendre compte que je ne suis pas coiffeur. » Et c'est à ça qu'il doit sa survie. juste parce qu'il a répondu à cet ordre. Donc j'ai choisi de garder les... En fait, j'ai fait une ellipse sur tout le voyage en train, etc. Parce que d'ailleurs, le premier son du film, c'est un train qui arrive de loin. Et sous le titre, et après on est dans le wagon, dans un wagon vide. J'ai filmé dans la gare de Malkinia, qui est la gare qui est tout à côté de Treblinka. Et le wagon est vide, avec simplement un ray de lumière qui passe et un peu de poussière. Voilà, ça c'est la première image. Et on commence ici, la porte s'ouvre, et on découvre en même temps que Reichmann, que se passe-t-il ? La plupart des gens sont sélectionnés directement pour aller à la chambre à gaz. Et Reichmann et quelques-uns, une centaine d'hommes, eux sont sélectionnés pour trier des vêtements. Et je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est commencer là, c'est montrer que se passe-t-il. Et en 3 jours, Reichmann joue sa survie. Et il passe de spécialisation en spécialisation. Il est d'abord trieur de vêtements, après il devient coiffeur, c'est-à-dire couper les cheveux des femmes avant de rentrer dans la chambre à gaz. Ensuite, il devient dentiste, c'est lui qui est chargé d'arracher les dents en or et d'autres métaux à la sortie de la chambre à gaz. Et avant, porteur de cadavres et ensuite dentiste. Il garde cette spécialisation jusqu'à la fin, jusqu'à la révolte. C'est ça qui est important. Donc les 3 premiers jours, en fait, on découvre avec lui. Le film, il fait, on va dire, un très gros tiers, ce sont que les 3 premiers jours. Et après, dans ce type de lieu, tout est répétitif. Donc j'ai choisi les moments où il se passait quelque chose de particulier, où mettait en lumière un mode de fonctionnement du camp. Mais le texte est tellement fort, à chaque fois je me raccroche à ça, il fait une description de l'arrivée des juifs bulgares, qui ont moins souffert de privation avant. Et lorsqu'ils arrivent, il dit « mais ils ne nous ressemblent pas, ils sont beaux ». Voilà, donc je me suis vraiment appuyé sur son texte pour faire le découpage du film, et c'est un texte qui fait, dans son édition originale, je crois, entre 120 et 130 pages. Moi, j'en ai fait 8 feuillets Word, à peu près, donc c'est très résumé. Je n'ai absolument pas touché au style du texte, aux mots de Reichmann, je n'ai absolument rien changé, si ce n'est que j'ai passé son texte au présent pour le rendre plus réel, bien qu'il l'était vraiment, mais plus réel pour un documentaire.
Ce qu'on ressent réellement, donc dans cette première journée, il découvre le camp, dans un premier temps, il est trieur de vêtements, et je crois que c'est dès le lendemain, il trie les vêtements et il découvre parmi les vêtements la robe que sa sœur portait la veille.
C'est ça, et c'est à ce moment-là où il a la certitude quasiment qu'il va mourir en fait, et que tout s'est effacé. Il est arrivé avec sa petite sœur, Rivke, et au tri des vêtements, comme vous venez de le dire, il tombe sur la robe que sa sœur portait. Et il arrache un morceau de la robe qu'il garde dans sa poche, qu'il gardera toute sa vie, jusqu'à son dernier jour. Till Reichmann, et ça m'a été confirmé par la personne que je connais qui m'a permis d'avoir l'accord des fils de Till Reichmann pour avoir ce texte, il m'a confirmé que ce bout de robe était dans la poche de Till Reichmann le jour de sa mort.
Oui, mais c'est ça qui est extrêmement, extrêmement fort. Et en même temps, il y a cet aspect très... émotionnel, je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'il y a justement une sorte de distance permanente, notamment, vous l'avez dit, Guillaume Ribault, il va être tour à tour trieur de vêtements, coiffeur, porteur de cadavres, il va raconter dans le détail chacune de ses tâches, il raconte également de manière très, très frontale le fonctionnement quotidien des chambres à gaz, des bûchers, le comportement des nazis, les assassins, comme il les appelle.
J'entendais... Il ne dit jamais, les SS, il le dit à 2 fois, il n'y a qu'un nom dans tout le livre. Ce n'est pas un livre d'histoire où il cite la hauteur des barbelés, etc. C'est absolument pas ça le texte. Et il appelle les nazis les SS, les assassins, pardon. Et ça sonne SS, assassin, SS. C'est une trouvaille stylistique peut-être involontaire, mais qui est extrêmement importante. À chaque fois qu'il parle d'eux, ce sont des assassins. Il ne les désincarne pas en leur donnant ce sigle de SS. Non, ce sont des assassins. Il parle même du surassassin en chef pour le chef du camp.
On sent aussi la distance qu'il est obligé finalement d'instaurer avec ce qui l'entoure. À un moment, il dit même, je crois, quand il coupe les cheveux des femmes, il dit qu'il n'est plus qu'un outil.
Nous ne sommes que des outils, parce que là, ils sont dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Un seul mot, c'est la mort pour eux. Donc, que font-ils ? Ils coupent les cheveux. Et justement, j'ai conservé ce passage où une jeune fille lui dit « Mais ne me coupez pas totalement les cheveux, de quoi aurais-je l'air ?» Et il est confronté à ça, il est confronté à l'arrivée de ces femmes qui sont déshabillées et ils doivent couper les cheveux en 5 coups de ciseaux. Et il est face à ça, il a compris que sa sœur était morte, que les siens vivaient hier, et il est dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. C'est cet état d'esprit absolument inhumain dans lequel il est.
Il y a le récit d'une première révolte, je ne sais pas si on peut la qualifier comme ça, peut-être qui est à l'origine de cette révolte donc de novembre 43, en tout cas le germe. Donc une dizaine d'hommes, c'est ça, hein, qui est envoyé dans la chambre à gaz et qui se révolte, qui refuse d'entrer.
C'est un moment extrêmement fort parce que je l'ai vraiment gardé, parce qu'on croit toujours, vous savez, cette vieille histoire, ils ont été conduits à l'abattoir sans rien faire. Non, il y a eu des révoltes dans tous les centres de mise à mort. À Auschwitz, ils ont dynamité un crématoire. À Sobibor, Lanzmann en a fait un très beau film, extrait de Shoah, il l'a pas mis dans Shoah tellement il était fort, Sobibor. Et à Treblinka, de la même manière. Et il y a eu cette révolte des hommes. On oublie souvent que les hommes n'étaient pas là, souvent, les hommes en état de se battre. Les révoltes qui ont réussi, c'est quand il y avait des militaires, justement. Les militaires de l'armée rouge qui étaient là et qui organisaient les révoltes. C'est compliqué de se révolter, surtout face à des gens armés. Et dans ce passage que j'ai conservé, il y a un moment où on comprend mieux l'état d'esprit des SS. Lorsqu'ils matent la révolte, parce que les hommes se sont battus nus à l'entrée de la chambre à gaz avec leurs poings face à des mitrailleuses. Mais le surassassin en chef, le commandant, était outré. Il ne pensait pas, il se demandait comment avait-il osé se révolter. C'était anormal. Donc c'est vraiment, oui, de la révolte, il y a eu, oui, de la résistance, il y a eu, mais parfois, il est impossible de résister. Parce que la violence effraie, la violence rend impossible toute révolte. Ça, les gens l'oublient. On oublie toujours. Les cris, la violence, la peur, l'incertitude, les années de privation ne font pas de vous un combattant.
Oui, mais en même temps, on a l'impression, mais peut-être que voilà, ce sont des projections a posteriori, mais que le fait qu'il sache que ces hommes se sont révoltés lui donne de la force, non? Ou en tout cas, il y a quelque chose comme si c'était une...
Bien sûr, je pense que c'est une projection de ma part, mais je pense que lorsqu'on voit qu'il est possible de se révolter, mais la révolte finale a mis du temps, parce que c'était un plan à mettre en place. Une révolte, ça sert à rien de se révolter si c'est pour mourir. Il faut que, mais je pense oui que dans leur idée, ça leur a montré on peut faire quelque chose. Mais il est illusoire de vouloir se révolter juste pour rien.
Oui, oui.
Donc oui, mais je pense que ça, et je le mets à un moment du film en plus qui est assez charnière parce que c'est juste avant le moment où ils comprennent que à partir du moment où on vide les fosses communes pour faire disparaître les cadavres, quand il n'y aura plus personne à exterminer, leur tour sera venu. Donc à partir de ce moment-là, ils se rendent compte qu'il faut faire quelque chose. C'est là où la révolte entre vraiment dans les esprits.
C'est donc ce qu'il raconte lors du 11e mois de détention. Je ne sais pas si c'est lui qui a donné ces
titres. C'est moi qui, par rapport à la première date que j'avais. Ensuite, comme il donnait des petites indications, c'est moi. Et j'ai mis ces synthés, comme on appelle ça, ces indications de temps, parce que sinon on s'y perd. Mmh. On se perd beaucoup, on ne sait plus quand on est, le texte parfois. Donc moi, j'avais fait des calculs, un calendrier, combien on est. Donc là, ouais, au bout du 11e mois, c'est le moment, le dernier mois qu'il passe à Treblinka. Ce n'est pas la fin du camp de Treblinka, d'ailleurs. Le camp fonctionne encore pendant 3 mois.
Pendant 3 mois.
Ouais.
En l'occurrence, lui, quel rôle il va jouer dans cette révolte ?
Il fait partie des centaines qui se révoltent. Il n'a pas un rôle majeur dans l'organisation.
Parce qu'il décrit bien chacun ceux qui doivent voilà. S'occuper du.
C'est ça. Mais lui n'a pas. Voilà, il y a les cuisiniers qui aiguisent les couteaux, qui ont des genres de pinces pour couper les barbelés. Il y a évidemment ceux qui peuvent avoir les fusils. Qui sont dans le camp numéro 1, parce que Treblinka est séparé en 2. Il y a le camp numéro 1 et le camp numéro 2. Il n'y a aucun lien entre les deux. Et Reichmann passe au camp numéro 2, alors que pour travailler dans le centre de mise à mort. Au début, c'est un centre de tri, on trie les gens. Mais c'est ceux du camp numéro 1 qui arrivent à s'emparer de fusils, et le début de la révolte part de là. Et après, il se révolte avec les autres. Il n'est pas un organisateur de la révolte.
Mais il en fait partie à part entière, parce que lui fait partie donc de il ne raconte pas plus en détail ça, les prémices de ce...
Si, mais c'est parfois, quand on adapte un texte, il faut faire des choix. Et là, en l'occurrence, j'ai fait le choix de ne pas parler de la préparation de la révolte, qui dure plusieurs mois d'ailleurs.
Oui, j'imagine.
Il y a eu une tentative avortée. Ouais. Et j'ai préféré jouer sur le moment où ils ont compris que le camp allait disparaître, et qu'à un moment, c'est dans leur esprit. Et j'ai préféré mettre l'accent sur ils ont peur que tout capote. Mmh. Ils ont peur que la révolte, pour une petite chose, n'ait pas lieu. Et j'ai plutôt voulu montrer l'attente de la préparation plutôt que la préparation technique en elle-même, qui me semblait très intéressante. Mais le film ne va pas vers le documentaire. C'est plus un film qu'un documentaire, en fait. Puisque dans ce film, à part les images d'albums photos de famille d'avant, il n'y a aucune image d'archive, absolument aucune.
Ce qu'on voit donc à la fin du film, c'est aussi comment finalement chacun de ses choix l'ont sauvé.
Ce n'est que ça. Ils sont 57 à survivre. Ils sont plusieurs centaines à s'évader, mais par exemple, dès qu'ils arrivent à sortir du camp, ils arrivent dans la forêt, ils sont 20, trop nombreux, ils se séparent en deux, un groupe est tué, le sien non. Là, pas de la chance, c'est comme ça, il n'y a pas d'explication à donner, mais chacun de ses choix ou de ses intuitions est bonne. Parce que quand on s'évade d'un camp comme Treblinka, on est en Pologne en 1943, vous n'êtes pas le bienvenu dans nulle part. Donc, les rencontres sont dangereuses, toutes. Néanmoins, il fait une rencontre qui lui permet de... J'ai ellipsé également ce moment-là. Il est caché à la fin par un couple de paysans polonais dans une grange assez éloignée. Moi, je me suis plutôt... J'ai arrêté le film sur la rencontre avec un couple de paysans. Tout est question de choix. Ils sont encore 10, et à un moment, les autres partent. Lui dit, je vais à Varsovie. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux 9 autres. Ça se trouve, ils sont morts. Reichmann, non, parce qu'il a fait des choix. En permanence, tout le temps. Il a pris en main son destin en faisant des choix. C'est une vraie réflexion aussi, ça.
À quel public vous voulez vous adresser avec ce film?
C'est difficile de le dire. J'ai envie de dire à un public qui est prêt à sortir un petit peu de la manière d'aborder le thème des camps, des centres de mise à mort, de la Shoah en général, parce que il y a eu beaucoup de choses de fait, très belles, très bonnes. Moi j'avais envie que ce soit des gens, c'est un film peut-être un peu exigeant parce qu'il faut écouter le texte, réellement. On n'est pas dans l'aspect documentaire où l'image vient à nous et on comprend. On est dans une forme d'alchimie de texte, d'image, de son. Il n'y a aucun son réel lorsque je parle du camp de Treblinka. Parce que pour moi, c'est un hors-monde. Donc tous ces éléments font que c'est un public, je pense, c'est un public qui a envie d'écouter un texte d'une force majeure, un texte majeur, et qui peut, ce texte a... est captivant, et mon film, il serait un peu présomptueux de dire qu'il l'est, mais en tout cas il nous accroche, et on veut savoir plus, on veut comprendre l'incompréhensible, et voilà, c'est peut-être un film de création plus qu'un film documentaire.
Je vous remercie beaucoup, Guillaume Ribaud, d'être venu. Je rappelle donc que votre film Treblinka, je suis le dernier juif, sera projeté en avant-première au Mémorial de la Shoah à Paris, dimanche 13 novembre à 14h30. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.